ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que Randy Jones reste sur la base Cope. L'esprit de voir des gens travailler ensemble. Deux jours, tu peux monter une maison. Si tu vas pour mettre une couverture sur une maison, t'as juste à faire un ou deux appels, puis le lendemain matin, il y a plein de monde, ils sont là pour t'aider, pour le faire. Ça, c'est quelque chose que c'est dur à avoir dans les grands centres. Et nous, on l'a.
Jamais tu seras mal pris sur la côte. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, pour te dépanner, pour t'accueillir.
De partir de Kekaska jusqu'à Blanc-Sablon, on est tous des coasters. Tout le monde est prêt à être... sans... Hey, la mer est basse en mou, t'as dit. Hey, ça sera pas-tu bon pour un peu pour les clams?
Sur la route de la Côte-Nord. Épisode 6, Golfe du Saint-Laurent. On arrive à la fin du voyage. Là où se termine la route et où commence la MRC du Golfe du Saint-Laurent. Là où la route est faite seulement de glace ou de rivière. On entre dans un lieu sacré où la nature, parfois hostile, parfois luxuriante, est plus grande que l'humain. En réponse à l'immensité de la nature, les coasters ont développé des liens très forts entre eux, se visitant en motoneige l'hiver et en bateau l'été. Participant aux tournois de hockey, au carnaval, à la cueillette, à la pêche et à la chasse. La base Côte-Nord est calme, mais n'est pas silencieuse. Le vent souffle chaque jour, venant du nord des terres du Nitassinaninu ou des côtes du Grand Nord. L'accompagne chaque geste et chaque voyage des coasters. Au loin, le bruit des vagues perce le paysage et la musique de l'accordéon chante encore pour nous. L'entendez-vous? Écoutez bien.
Ah, bonjour, Aiden. Comment ça va ce matin? C'est Baudouin à la Romaine?
Oui, je t'ai reconnu.
Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Nous, on est dans la brume, puis à Blanc-Sablon, comment ça a l'air?
La brume n'est pas loin.
Oui?
Ici, le paysage, c'est sur le roc. On dirait que les arbres sont pas grands. Regarde, la végétation ne pousse pas beaucoup ici. C'est pas où?
Ben, l'avion est parti quand même. Hein?
OK.
Ben,
il
n'arrête pas à la Romane ni à Natashquan.
Oh, en montant vers cette île et en descendant, arrête-t-il?
Ça va dépendre du météo à ce moment-là.
Ah, OK, c'est qu'on est entre les mains de Dame Nature.
Il n'arrêtera pas parce que c'est 0-0 des deux places.
Ouh, bon. Ben, merci beaucoup de l'information, là. OK, ben.
On a beaucoup de petites îles, des îles, on n'en peut finir, là, ici. On voyage beaucoup en bateau quand il fait beau, là. On passe en mer loin. C'est calme. Là, tu peux aller loin, 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 au large. C'est miroir.
Puis c'est pas juste ça. Regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis d'écouter les vagues. Puis t'écoutes. Le vent fait du bruit. Et le silence fait du bruit. Que c'est pas croyable, là. C'est la meilleure place sur la planète pour vivre.
Alors, vois-tu, la Basse-Côte-Nord, c'est de Kekaska jusqu'à Blanc-Sablon. Puis je te dirais qu'il y a comme deux villages francophones, la Romaine et Tête-à-la-Baleine, et le reste, c'est en anglais, et deux communautés inoues. Saint-Augustin, Pakwashipi, ainsi que la Romaine, Unamenshipu. Donc, on peut parler à peu près d'une quinzaine de villages qui se situent dans la région de la Basse-Côte entre Kekaska et Blanc-Sablon.
Ce golfe Saint-Laurent revêt une couleur particulière à l'est du Québec.
Guy Côté, historien.
De gens isolés, à l'extrémité est du Québec, de gens parfois peut-être mal compris, mal connus, qui sont des Québécois d'origine, qui sont des Terre-Neuviens d'origine, parfois venus aussi d'ailleurs, comme de Jersey, d'Angleterre, d'Irlande, à la fois des Inuits, à la fois aussi des Inuits, s'y installer bien avant les gens de la côte du sud du Québec et qui ont peuplé à leur façon ce qu'on appelle la Basse-Côte-Nord et qui aujourd'hui on appelle la région du Golfe-Saint-Laurent ou la MRC du Golfe-Saint-Laurent. Cette couleur de la MRC du Golfe-Saint-Laurent, elle se révèle tout à fait charmante dans des trottoirs au lieu de routes pour se promener dans un village qui est Harrington Harbor. Saint-Augustin revêt une autre couleur, elle, avec un village situé à l'embouchure d'une grande rivière qui se sépare en deux bras, tout à côté de Pakwashipi, une communauté Innu. Vieux-Fort a sa couleur aussi, avec son histoire d'une ville ancienne où possiblement un millier de personnes et plus se donnaient rendez-vous durant l'été pour la pêche, avec ses montagnes tout autour, ses collines rocheuses et les passes, les rigolettes, pour désigner ces passages étroits entre les îles pour atteindre Saint-Augustin, Blanc-Sablon à l'autre bout, qui fièrement voit les descendants de 7-8 d'une deuxième génération de gens installés dès la fin des années 1700. Le long de Blanc-Sablon, c'est celui de l'archéologie, de tant de choses à découvrir dans cette orientalité du Québec, dans ce lieu où on est connecté aussi à Terre-Neuve par un traversier qui, à tous les jours, traverse à partir de Blanc-Sablon vers Terre-Neuve. Donc, il y a une couleur tout à fait maritime, une couleur d'un isolement à la fois, puis à la fois aussi d'une ouverture sur la mer et qui est très, très présente.
Alors, parole de la chanson « Joe Hébert » de Gilles Vigneault.
Who is Joe Hébert? He was to bring the mail, was it him, Joe Hébert? Non?
I don't remember.
Yeah, je pense que oui, c'est lui qui faisait ça là, en ce temps-là.
Avec ses chiens de casca, son fouet, ses raquettes longues, ses sacs de malle, sa drague et puis son grand cométique, fer et foncé lacé, pour les tempêtes d'hiver, oc la la la, oc la la.
Monsieur Joe Hébert était un monsieur qui transportait la malle sur toute la côte.
Qui c'est qui s'en va porter les lettres d'amour des gars du Havre-Saint-Pierre aux filles de Blanc-Sablon? Ces chemins glacés, c'est Joe. C'est Joe Hébert.
He used to go in the winter with his dogs, hein? En chien. Ouais, c'est lui qui faisait ça par traînon avec des chiens.
Joe parle à ses chiens comme on parle au monde. Puis ses chiens le comprennent si bien qu'on a vu ses chiens faire tout seuls 5 000 à la ronde pour trouver un sac qu'ils avaient perdu. Quand ses chiens filent pas, Joe s'en doute. Il sort sa bouteille de petit caribou, il le paye la traite, puis s'en verse une goutte. Il chante son petit air, puis envoie Pitou. Joe Hébert, c'était le lien avec l'extérieur pour les gens qui étaient isolés, qu'on le veuille ou non, même si on est sur le littoral, on est des insulaires n'ayant pas de route d'une place à l'autre. Alors, c'était le lien, c'était l'histoire, c'était les mariages, les naissances, il rapportait la vie qui se passait ailleurs, dans chaque place il restait en fait. Apparence de neige, Joe Hébert a-t-elle. Il connaît le chemin sur le bout de ses pieds. Vient d'arriver, il repart de plus belle. Faut aller coucher à Pointe-à-Maurier. Quand la poudrerie les prend sur la route, il rassemble ses chiens puis se couche au milieu. Le lendemain matin, je défonce la croûte, tout comme ces 12 chiens qui sont matineux.
Un raconteur, un beau parleur. Lui, quand il arrivait dans les villages, c'était un rassemblement. Tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait l'entendre, voulait entendre parler de ses voyages. Puis, s'il se sentait bien ou que il y avait quelque chose, une activité comme une noce ou des choses comme ça dans les villages, il pouvait retarder d'une journée pour assister à la noce ou s'il y avait une fête quelconque parce qu'il aimait bien ça.
Mon père m'a conté que Joe montait en ville, puis toutes les belles femmes y tombaient dans les bras. Pareil qu'il se promenait en automobile, qu'il gagnait aux cartes, puis chantait de l'opéra. Parlait 3 langues, puis en belle manière, prenait des liqueurs, était fort galant, mais il s'ennuyait de manger de la misère, en lampant le gin puis le petit whisky blanc.
On parle de un mois par voyage ou des choses comme ça.
En fait, il arrêtait à la maison faire un petit puis il retournait. Hein?
Sa femme, c'était Rachel Monger.
Combien d'enfants?
Il y a eu Léa.
Marie.
Il y avait deux fils.
Joey Berg, il apportait la malle d'un bout à l'autre. Ça paraissait, c'était évident. Mais le travail que sa femme faisait, personne ne le remarquait, comme la plupart des femmes au foyer. À ceux qui demandaient « Où est-ce que tu t'en vas de même? » Ils disaient toujours « On est deux là-dedans. Joe s'en va où est-ce que Hébert le mène? » Puis Hébert s'en va sur ses 50 ans. Même à l'heure qu'il est, on reconnaît sa trace. Joe Hébert descend tout le long de la côte. On trouve les grands trous qu'il a fait dans la glace pour se prendre son petit coup puis voir si ça mord.
C'était impossible aussi d'être ponctuel à l'époque. C'était la voile et la rame. Et l'hiver, c'est assez chien. Donc, il était dépendant de la météo, dépendant des saisons.
Avec ses chiens de cascade, son fouette, ses raquettes longues, ses sacs de malle, sa drague, puis son grand cométique, ferré, foncé, lacé, pour les tempêtes d'hiver, oc la la la, oc la la. Qui c'est qui s'en va porter des lettres d'amour des gars du Havre-Saint-Pierre aux filles de Blanc-Sablon? Sur les chemins verts glacés, c'est Joe. C'est Joe Hébert. Physiquement, il était trapu,
trapu,
bien bâti, une grosse barbe.
Le personnage est connu pour ça, pour un homme qui a peur de rien, qui peut faire n'importe quoi et qui est bien partout. Il a été, si on peut dire...
Le précurseur des postes sur la Basse-Côte.
Oui. Puis d'ailleurs, il n'y a pas seulement ici que sa mémoire est vive, elle est vive aussi à ce type.
L'édifice gouvernemental où il y a les postes s'appelle l'édifice Joe Hébert.
Le gros de sa carrière, il l'a fait dans les années, la poste entre 1910 et 1900, dans ces années-là.
En quelle année qu'il est né?
En 1830. Okay. Il est né à Berthier-sur-Mer, il est parti de là à 14 ans. C'est le travail, embarqué sur une goélette comme il y en a plusieurs qui faisaient pour venir faire la pêche, puis il n'est jamais retourné. Peut-être que c'est un peu ça que Joe Hébert aussi a trouvé en quittant Berthier-sur-Mer pour s'en venir sur la côte. C'est cette liberté dans la nature et aussi peut-être la beauté.
J'adore la nature ici, comme je vous dis, le fait d'être tout le temps en nature, exercer ce que mes grands-parents faisaient tout le temps, aller à la chasse, puis tout ça, on le fait ici tous les jours. Quand tu as envie d'aller à la chasse, tu prends ton bateau et tu y vas. Tu as une liberté ici. C'est tellement vaste aussi le territoire au nord, là, il y a plein de lacs, plein d'endroits où aller pêcher. Nous autres ici à la Romaine, on est dans un endroit où il y a du homard, puis il y en a beaucoup. La population, en général, ici, ils vont avec des perches, une épuisette attachée au bout, puis on les ramasse en dessous des roches. On cogne, ça fait du bruit. Le homard, quand il est là, lui, le bruit, ça l'énerve, mettons, là, puis il sort tranquillement. Tout, aussitôt, quand tu touches le homard avec la queue, il recule, il rentre dans l'épuisette. Puis ça le sortir. On en ramasse beaucoup. On gaspille pas, on prend ce qu'on peut prendre. Regarde, si j'en ai déjà, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Après le homard, ça va être le saumon qui va rentrer dans les rivières. On a trois rivières ici aux alentours. La Washikouté, après ça, la Cocotcho et Tamamio qui est plus loin. Toutes des rivières à saumon. Quand tu vois les hirondelles tournoyer, là, ça veut dire qu'il y a du saumon. Quand on arrête la pêche, la saison des outardes commence. Mais on va à la chasse aux canards aussi en premier avant que les outardes arrivent. Il y a la pêche, après ça, il y a la trappe, le temps de décoller. Ensuite, après l'hiver, il y a la chasse aux caribous dans le Nitassinan, comme on appelle. Ils font des séjours de un mois, il y en a qui font jusqu'à trois mois. Hadjou, on dit un homard, hadjou, homard. Nemé, un poisson. C'est des mots, là, regarde, que tu vas entendre ici. Hadjou, nemé, messip, le canard. Nisk, les outardes. Atiouk, ouais, ça c'est le caribou. Je vois des affaires qu'on pratique, qu'on ne pratique plus ailleurs dans les communautés qui sont plus à l'ouest de nous autres. Là. Les activités traditionnelles sont encore plus présentes dans nos communautés que cette île ou même Mingan, ça commence à se perdre. La langue aussi. Ici, un petit jeune, il utilise encore les mots de vieux, comme on dit. C'est tellement beau à entendre là, un petit jeune parler comme quand tu entends deux vieux parler, là, le petit jeune, il parle comme ça. Encore ici. Pour que ça soit vivant, cette affaire-là, faut pas que ça s'éteigne.
La richesse que la Basse-Côte-Nord a, c'est de conserver leur langue. Parce que moi, en tant qu'individu, je peux très bien te dire d'où provient la personne Innu selon les mots utilisés. Comme à Mingan, ils vont dire qu'à Matwepinhet pour la liqueur ici. Ce qui veut dire l'eau qui pétille. C'est vrai, l'eau pétille, là, on voit les bulles. Puis, en attachement, ils vont dire Nokutia. Parce que avant, les gens là, payaient la liqueur avec des peaux d'écureuil. Mais je vais pas me chercher un écureuil que je vais payer avec la peau d'écureuil. Donc, c'est cette. Puis ici, tu t'arnais, puis l'eau qui est prête à boire. Ici, l'eau qui est prête, là, il y a juste à le boire. Puis c'est vrai qu'elle est prête, là. Puis à Pakwashipi, Kamenan, l'eau qu'on boit. En Basse-Côte-Nord, pourquoi la langue et la culture sont si forts? L'absence de la route aide pour beaucoup. Parce que les gens vivent ce que l'environnement leur offre. Saint-Augustin, à Pakwashipi, la langue est encore plus pure. Eux ont conservé leur mode de vie. Ils ont conservé leur style. Les us et coutumes sont encore très présentes. Là-bas, ils ont encore le respect des os de l'animal. Quand ils ont terminé de manger du gastro, j'ai vu mon oncle, 75 ans, après avoir terminé de tout enlever la viande qu'il y avait autour des os. Alors là, il prenait les os, il les ramassait dans un sac en toile, puis il allait les porter à la rivière pour remercier l'esprit du castor. Les gens de la Basse-Côte-Nord, eux autres, ils sont comme en communion avec ce qui leur est donné ici sur la Basse-Côte-Nord. Andrew Poker, ce serait le dernier Béotouk. Le Béotouk était sur l'île Terre-Neuve. Quand la nation Béotouk a été décimée, ça aurait été le seul survivant. Andrew Pokwek a été un des guides spirituels les plus respectés, je dirais. Dans le sens que lui, il pouvait très bien lire les nuages, il pouvait très bien lire le vent, il pouvait très bien lire aussi quand les bancs de sable bougeaient. Donc lui, il savait par où est-ce que le saumon allait monter. Je l'ai amené une fois à lever les filets, puis il m'a dit « change d'endroit où tu peux mettre le filet ». J'ai dit « pourquoi ?»« C'est que je te le dirai plus tard ». Ok, parfait, on change d'endroit le filet. Le lendemain, 14 saumons dans le même filet. Parce que c'est un endroit où le sable n'arrête jamais. Et pourtant, moi, j'ai pas eu ces connaissances-là, là. Quand une personne âgée part d'une communauté, les jeunes perdent une bibliothèque vivante. Et ce que je te dirais aussi, que la Basse-Côte-Nord ne connaît pas le mot « je suis fatigué ». Même quand je regarde certaines personnes ou des films qui ont été réalisés par Pierre Perrault ou Arthur Lamotte, tu vois vraiment des gens travailler, puis jamais prononcer le mot « je suis fatigué ». Autant à la tabatière, autant à la romaine, autant à Blanc-Sablon, peu importe où tu es, le mot « fatigue » n'existait pas. Quand les gens te voyaient avec un petit peu plus de misère, ils allaient t'aider. Je lâche mon marteau, je m'en vais aider celui qui a besoin d'avancer. Hein.
Si les gens était capable de faire ça pour aider à ma famille, moi, j'étais capable de faire quelque chose à leur aider. Ben, j'ai dit, si je reste, je vais me présenter comme maire, puis on va essayer d'avancer des dossiers pour notre village. De mes deux villages, Bélimouton et La Tabatière. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis là, ça fait 16 ans que je suis maire. On a le plus jeune MRC de la province. Ça fait 4 ans que je suis le préfet. Toute la Basse-Côte, à partir de Kékasko jusqu'à Blanc-Sablon, c'est la place où l'heure n'a jamais changé. Parce que tu recules de 50 ans quand tu arrives sur la Basse-Côte.
On est encore dans des habitudes de vie qui datent encore de loin. La mentalité, même la mentalité, est encore comme ça dans le temps de nos grands-parents.
La vie quotidienne sur la Basse-Côte, un bateau par semaine qui rentre avec les fruits et légumes, l'épicerie.
La MRC du Golfe de Saint-Laurent, c'est le pays de toutes îles. C'est le pays que Champlain, que Cartier, que d'autres explorateurs avaient découvert et qui était difficile à ravitailler, qu'on voyait avec les glaces qui nous faisaient découvrir qu'au printemps, les ours polaires sont présents, les phoques nombreux, mais surtout un ravitaillement qui est attendu, mon Dieu, tant attendu au printemps, avec l'arrivée du premier bateau. Parce que l'hiver, le lait, certains produits entrent coup-ci, coup-ça par l'avion, mais comme la facilité tout à fait s'installe durant l'été, et comme même les produits de la mer vont sortir des villages aussi, des usines de transformation d'Arrington Harbor, de certaines petites usines de Blanc-Sablon, et d'ailleurs sur la côte. Et donc, ce ravitaillement est facilité durant l'été. C'est ce qu'on découvre aussi à bord du Belleau des Gagnés, entre autres. Ces conteneurs, mais ces friseurs aussi, ces conteneurs avec congélation qui transportent les produits périssables de la Basse-Côte.
La Basse-Côte-Nord, ici, c'est la patience.
Il n'y a rien qui presse. Si tu n'es pas capable de le faire aujourd'hui, tu le feras demain.
Les éléments font qu'on ne peut pas être ponctuel sur la Basse-Côte. Faut vivre selon les éléments.
Quand on va sur les îles, là, nous, ce qui enlève le stress de la vie entre quatre murs, c'est les cris de Stern. C'est comme si les oiseaux restaient à l'état pur. Puis apparemment que quand tu déranges le hors, tu déranges la température le matin. C'est comme une espèce de prière des incantations que le hors fait dans le bois et il ne faut pas le déranger. Et le déranger peut donner un mauvais présage sur ta journée. C'est des croyances comme ça que nous, on vit encore ici. Et je suis certain que les gens de Mutton Bay ou de Chevry ont encore des croyances par rapport à ce qui leur entoure.
Je peux pas dire plus que ça, c'est l'amour de vivre ici, là. Tu peux pas avoir... Écoute, il y a des canards qui crient en arrière de nous autres.
Mon temps, moi, c'était... Ma mère, elle faisait son jardin. Elle avait son jardin droit en avant de la maison, mais on était une grande famille, là, on était neuf. Ça fait que ça en prenait un lot pour nous nourrir. Puis mon père, lui, il faisait la pêche. Ça fait que lui, il était tout le temps parti. Ça fait que quand il était parti, ben, on avait du fun. Puis on se ramassait une gang de jeunes chez nous, puis on faisait des danses carrées. Tout le monde. Toutes les jeunes de mon âge, ça fait que ma mère jouait de l'accordéon, puis moi j'ai appris à jouer de l'accordéon. Oh, mon nom, c'est Delima Marcoux-Smith. J'ai venu au monde à tête à la baleine. Ma mère était un Stubber, puis mon père était un Marcoux. C'est-tu non? Pourtant, la mer est belle.
Ça donne un exemple de ce qui était la vue, oui, sur la côte.
Mon grand-père, lui, faisait la pêche au mort. Puis elle, ça s'appelait le bluff.
C'est à la chasse certaines saisons, c'est à la pêche en d'autres saisons.
Il fallait partir en bateau. Prendre et emporter tout après l'école.
C'était un endroit pour vivre l'hiver, un autre endroit pour vivre l'été.
Ils emportaient tout ce qu'on pouvait emporter, des chaises, des meubles, tout ça, des lits. Puis il fallait aller s'installer là pour le.
Partout dans la région, les gens étaient sur des îles, les dernières au large, pour être tout près des ressources. Du saumon, du homard, de la morue.
Quand on arrivait là, mais lui, il pêchait au homard avec une maison, puis mon père, puis un. On était juste sur une île, nous autres, on était tout seuls. Avec mon grand-père, puis nous autres, la famille. Ça fait que quand c'était fini l'été, mais on leur déménageait à Tête-à-Baleine. Mais c'était un long voyage à partir d'une petite chaloupe. Puis on leur retournait à l'école. Puis l'automne, mon père y allait à la chasse au lièvre. Puis toutes ces affaires-là. On se nourrissait du bois, nous autres, dans ce temps-là. Puis les familles étaient pauvres, pas d'électricité. Il fallait aller chercher de l'eau dans des sioux. Puis il fallait qu'ils creusent un trou pour de l'eau. Puis tout ça. Ça fait qu'on n'a pas connu ça. Moi, j'avais 21 ans avant que je savais c'était quoi une télévision. Oh, pas jaloux, là. Bon, ben, mon père jouait du violon, maman jouait de l'accordéon. Moi, j'ai commencé à faire la même chose. Quand j'ai venu à la tabatière, j'allais jouer ici à la salle. Ça a tout changé, ça. À ça, il n'y a personne qui joue des danses carrées, rien de même, comme dans mon temps, moi. Mais après ça, ben, tu sais, il y a d'autres musiques qui rentrent, et puis il y avait. C'était juste des danses de même, tout le monde dansait, l'homme blanchait avec les autres.
Découvrir la Basse-Côte en hiver, découvrir la Basse-Côte en été, c'est parfois entendre des accents. C'est parfois entendre des gens s'attiner, s'agacer entre eux, se traiter de cacahuètes ou de marsouins ou de d'autres portes étendards que chaque village porte en soi. De découvrir les communautés, l'entraide, celle de Harrington Harbor qui doit s'approvisionner en eau douce, refaire ses réserves, découvrir tel autre endroit que sa couleur, celle d'un lourd de blanc sablon qui, quand les whiteouts, les tempêtes aveuglantes de l'hiver s'installent, ben, va voir tout à coup une cafétéria à l'hôpital devenir un restaurant parce qu'on est dégradé, comme on le dit dans le village de Tête-à-la-Baleine, on est dégradé par le temps. Et on se trouve être comme tout à coup pauvre et pris sur place. Le bateau va retarder, l'avion ne pourra pas atterrir. Il y a donc toute une couleur qui est révélée à ce moment-là et des histoires qu'on aura à vous conter de toutes sortes.
Juste en face de nous autres, on voit la forme parce qu'il y a un peu de brume au large. Il y a l'île de Grosse-Île. Le gros Mecatina. Comment est-ce que les roches sont déchirées? Ils sont... Droite là, à droite. C'est... Ça, c'est la mer qui a fait ça. Quand il y a des grosses vagues, puis le pouvoir et la glace qui frappent, ça fait déchirer les roches. Écoute les vagues. On le voit. Puis la mer est en bassin, là. Puis je te gage qu'on peut aller en bas là chercher des moules. Puis si j'aurai une casier homard ou deux, on aura quelque chose à souper.
sur la route de la Côte-Nord. Une production de Tourisme Côte-Nord, conçue par Magnéto. Réalisation, Daniel Capey et Nicolas Lachapelle. Prise de son, montage et mixage, Daniel Capey. Narration, Héloïse de Merspinard. Musique originale, Mehdi Cayenne. Direction de production, Alexandra Villot. Recherche, Société historique de la Côte-Nord. Avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de la Basse-Côte-Nord. Avec, dans ce sixième et dernier épisode, Randy Jones, maire de la Tabatière, Baie des Moutons et préfet de la MRC de la Basse-Côte-Nord. Richard Molène et Baudouin Lalot, résidents de la Romaine, Bounamène-Chipou. Micheline Lapointe et Gilles Monger, résidents de Tête-à-la-Baleine et enseignants. Délema Marcoux-Smith, résidente de la Tabatière. Guy Côté, historien. Merci pour votre écoute et bon voyage sur la Côte-Nord.